Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, aussi par internet ou encore grâce à votre téléphone. D'ailleurs, je vous rappelle tout de suite les numéros qui ne sont absolument pas surtaxés. Alors si vous voulez nous écouter avec votre téléphone depuis la France, eh bien vous composez le 01 80 14 44 77. Si vous êtes en dehors de France, vous ajoutez le 00 33, puis vous faites le 1 80 14 44 77. Et puis, si vous voulez nous écouter depuis les États-Unis, eh bien, vous composez le 1 712 432 9 978. Aujourd'hui, nous vous proposons dans notre programme votre rendez-vous santé avec le docteur Jean Lindsay. Ensuite, nous retrouverons la chronique Un air de famille. Et pour finir, un temps de réflexion avec Pierre Péchou pour Vers d'autres cieux. Mais tout de suite, pour commencer, voici Sentez-vous bien. Docteur Jean Lindsay, bienvenue au micro de Sentez-vous bien. Merci de nous retrouver une nouvelle fois.
Bonjour Oscar.
Merci donc de votre fidélité à cette émission aussi. Je rappelle que vous êtes directeur d'une thèse sur les 21 grandes causes du mauvais fonctionnement du cerveau. Et alors, parmi ces causes, il y en a une qui est connue de tout le monde, c'est la question de l'alcool. Nous savons qu'il faut consommer l'alcool avec modération, docteur Jean Lindsay, et cette consommation modérée, elle est due au fait d'éviter de devenir alcoolique. C'est pour cette raison-là qu'il faut modérer sa consommation.
Oui, mais surtout, ce qui est bien connu maintenant, c'est les effets de l'alcool sur le cerveau. Parce que vous savez que la science nous a apporté la possibilité de voir le cerveau fonctionner, de le voir dans sa structure intime. Et on s'est aperçu à cette occasion que l'alcool avait des effets catastrophiques sur le cerveau. Et plus on connaît les rapports de l'alcool avec le cerveau, plus on a tendance à penser qu'il faut la plus grande modération avec l'alcool, et même on pourrait dire qu'il n'y a pas d'inconvénient à ne pas boire du tout.
Et alors donc, si je comprends bien ce que vous dites, modérer sa consommation d'alcool n'est pas juste pour éviter de tomber dans l'alcoolisme, mais c'est aussi pour prendre soin de son cerveau au quotidien.
Oui, il me semble, oui. Vu ce qu'on sait, à l'heure actuelle, les normes, c'est 3 unités d'alcool par jour pour un homme et 2 unités d'alcool par jour pour une femme. Mais en réalité, ce que n'ont pas entendu nos contemporains, c'est que c'est pas parce qu'on ne boit pas pendant la semaine qu'on peut boire tout ce qu'on n'a pas bu pendant la semaine. Vous voyez, il faudrait pas croire que comme on boit pas pendant la semaine, on peut boire davantage le week-end. Les 3 unités d'alcool par jour pour un homme et les 2 unités d'alcool par jour pour une femme, c'est-à-dire, pour faire simple, 3 verres de vin.
3 unités,
rouge,
oui, c'est 3 verres, en gros.
L'unité, c'est un demi de bière ou un petit verre de vin, quoi. Et ça devrait être respecté même le week-end. Or, ce que l'on observe beaucoup maintenant, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes, c'est une tendance à boire plus que 3 unités pour les hommes et plus que 2 unités pour les femmes le week-end.
De manière occasionnelle, en quelque sorte. Occasionnelle, mais régulière.
Mais apparemment, en France, il y a beaucoup d'occasions. Quelquefois des occasions pendant la semaine, ce qui fait qu'au bout du compte, vous avez des gens qui, en réalité, font beaucoup de dégâts à leur cerveau sans s'en rendre compte et en croyant, de bonne foi, ne pas boire trop. Surtout qu'on a tous une capacité à juger ce que l'on fait avec beaucoup d'accommodement. On s'arrange souvent beaucoup avec nous-mêmes.
On
et donc
d'objectivité
les manque d'objectivité et beaucoup de gens boivent plus qu'ils ne croient. L'alcoolique, lui, il pense toujours qu'il boit moins que ce qu'il boit et en fait, il est de bonne foi, ce qu'on appelle le déni. Les gens qui ne sont pas alcooliques mais qui, au sens de la science, boivent trop, ceux qui font trinquer leur cerveau, si vous voulez, pensent en toute bonne foi qu'ils ne boivent pas trop. Mais ce que l'on sait maintenant, c'est que les alcoolisations massives occasionnelles génèrent dans le cerveau des dégâts aussi importants que les alcoolisations chroniques classiques.
voulait dire qu'en fait, entre quelqu'un qui boit beaucoup tous les jours et quelqu'un qui boit beaucoup une fois par semaine, la frontière est très faible.
Voilà, c'est ça. C'est qu'apparemment, les alcoolisations massives de week-end sont catastrophiques pour le cerveau et laissent des séquelles importantes que l'on voit maintenant en particulier sur la substance blanche, c'est-à-dire les fibres qui relient les différentes parties du cerveau. La substance blanche, si vous voulez, dans une maison, ce serait les câbles électriques qui amènent le courant dans toutes les prises.
Donc l'alcool a une action qu'on ne soupçonne pas sur notre cerveau à long terme,
oui.
Ou comment est-ce que ça agit concrètement?
Ça déforme le cerveau, c'est très impressionnant. En imagerie cérébrale, on voit le cerveau s'atrophier, il se ratatine.
Il s'atrophie de manière ponctuelle ou durable?
C'est les alcooliques chroniques, ils s'atrophient, ils se ratatinent, c'est impressionnant hein, du reste. C'est très impressionnant. Si le patient se soigne, si on arrive à un sevrage, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les techniques de soins pour les alcooliques ont fait des progrès énormes. Parce que maintenant, on considère l'alcool comme une maladie et non pas comme une malédiction qu'on devrait stigmatiser, comme un vice qu'on devrait stigmatiser, mais c'est juste une maladie qui se soigne comme les autres. Les techniques psychothérapeutiques basées sur les thérapies cognitives et comportementales, plus quelques médicaments qui aident bien, eh bien font que on a vraiment beaucoup, beaucoup de chances de guérir un alcoolique. Peu d'alcooliques résistent aux thérapies modernes, que ce soit dans des cliniques spécialisées, en ambulatoire ou bien en hospitalisation plus ou moins longue.
Donc aujourd'hui, quand on veut se sortir de l'alcool, il existe des moyens efficaces pour s'en sortir?
Énormément, et très efficaces.
Il faut complètement bannir l'alcool?
Moi, je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à ne pas boire. Ce n'est pas scientifique ce que je vais vous dire, mais je connais un certain nombre de gens, et j'ai un certain nombre de patients qui ne boivent pas du tout. Et c'est assez bizarre, mais j'ai remarqué que les gens qui ne boivent pas du tout ont une vivacité intellectuelle, une fraîcheur qui est tout à fait étonnante.
Docteur Jean Lindsay, merci pour votre participation à cette émission. C'était Sentez-vous bien. On se retrouvera bientôt, j'espère, pour une prochaine émission. Merci, au revoir.
Au revoir, Oscar.
Vous aussi, votre santé vous intéresse? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Is Adventist World Radio, the voice of hope.
Ici Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la Radio Mondiale Adventista,
la voce della speranza.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Sentez-vous bien que vous retrouverez dès demain avec le docteur Jean-Cyan Breuil. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien il vous suffit de nous adresser un mail à france@awr.org. Ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77-193 d'Amarie-Lélis, Cedex. C'est maintenant l'heure de poursuivre avec votre chronique Un air de famille et nous terminerons avec Pierre Péchou pour sa chronique Vers d'autres cieux. Jean-Pierre Lachise, bienvenue au micro de Un air de famille.
Bonjour.
Merci de votre présence.
C'est toujours un plaisir pour moi.
Vous êtes éducateur, pasteur. et vous nous invitez à nous arrêter sur certains passages de la Bible, et notamment ceux que l'on peut retrouver dans le premier livre de la Bible. Il s'agit de la Genèse. Et aujourd'hui,
oui,
vous...
Oui, parce que je pense que la Genèse, c'est en fait un ensemble d'histoires de familles qui nous ressemblent. On dit que les familles sont dysfonctionnelles aujourd'hui, mais dans la Genèse, vous avez les familles les plus dysfonctionnelles qu'on trouve au cours de l'histoire.
Donc aujourd'hui, dans le texte que vous avez choisi, qu'est-ce qui se passe ?
La dysfonction, elle se fait dans les premiers enfants d'Ève, hein, Caïn et Abel. C'est une histoire bien connue, hein, Caïn tue Abel. Alors, on s'est toujours posé la question, mais pourquoi ce meurtre ? Pourquoi ce frère qui tue son frère ? C'est très curieux. Et la réponse, on l'a pas si on n'observe pas bien le texte. Et on sent qu'il y a un problème de traduction dans le texte. Je lis, hein, simplement. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Alors, simplement, je souligne que dans le meurtre d'Abel par Caïn, il y a des éléments qui nous sont donnés, hein, un peu comme des inspecteurs de police qui on cherche des éléments. Un élément qui nous est donné dans le texte même. Cette traduction, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel, elle est pas tout à fait exacte. Et d'ailleurs, tous les traducteurs dans toutes les versions de la Bible ont une difficulté avec ce texte. Et en fait, il faut les regarder alors un peu dans l'original. Et c'est pas moi qui l'ai fait cette étude, c'est une psychanalyste qui a fait cette étude. Elle était voir dans l'hébreu quel était le verbe j'ai donné vie, et elle a trouvé cette racine du verbe j'ai acquis. Au sens, je possède, il m'appartient. En fait, Caïn, il ne s'appartient pas lui-même. Il peut pas exprimer son désir propre. Il appartient à sa mère. Hein, on avait vu déjà dans une émission précédente qu'il fallait quitter sa mère. Voilà. Oui. Caïn, il ne peut pas quitter sa mère. Parce que, en fait, il n'a pas la possibilité d'exprimer ce qu'il est lui-même ou ce qu'il veut lui-même.
Le lien est trop fort.
Voilà, c'est ça. La mère le possède. Hein, comme certaines mères, on dit, les mères orientales sont possessives. Leur enfant, c'est leur enfant. On les voit comme ces mères nourricières qui les entourent et qui ont beaucoup de mal à les lâcher. Une mère orientale, où le jour où son fils se marie, elle pleure pendant des heures. Voilà. Il y a un chagrin d'amour parce qu'il y a une vraie fusion qui ne se défait pas. Et là, c'est clair et net qu'un ne s'appartient pas. On le voit parce que quand il va porter des offrandes à Dieu, voilà, il est dit ça. Au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Et quand on regarde bien ce texte de près, il fit une offrande, c'est-à-dire, il fit pas de son offrande comme Abel, son frère, il va porter de son troupeau quelque chose qui lui appartient. Il va porter de l'offrande à Dieu, c'est-à-dire de l'offrande quelque chose qui lui appartient pas, donc il apporte rien, en fait. Mmh. Il faut s'appartenir soi-même pour posséder des choses et les partager. Donc, comme il est tellement attaché à sa mère, il n'existe pas pour lui-même, ben rien lui appartient.
Et donc, c'est ce qui l'amène à nourrir de mauvais ressentiments face
oui,
à son frère.
Oui, parce que je pense que Caïn n'existe pas pour lui-même. Il existe que dans le regard de sa mère, dont il n'a pas pu se séparer. Hein, ce qui était dit juste avant, l'homme quittera son père, sa mère, étant dépossédé de lui-même, il ne supporte pas que quelqu'un existe. Donc, à partir du moment où Abel porte de son troupeau à Dieu et qu'il est agréé parce qu'il porte quelque chose qui lui appartient, c'est son troupeau dont il se dépossède pour le apporter à Dieu. Abel est agréé par Dieu. Ce sentiment d'existence qu'a Abel est insupportable pour celui qui n'existe pas. Celui qui ne vit pas de son propre désir, quand il voit quelqu'un réussir pleinement, il ne supporte pas, pour parler de jalousie.
Oui, c'est pas de la jalousie finalement.
C'est une espèce de jalousie. On est jaloux du fait que l'autre existe et moi j'existe pas. Et là, et voilà, il va y avoir ce meurtre. Alors, on a explication du meurtre, hein. On termine l'enquête policière. C'est-à-dire, voilà, quand je suis dépossédé de moi-même, parce que ma mère m'a envahi, par son désir, ça peut être un enfant.
On retrouve ça
partout.
Tous les jours aujourd'hui.
Voilà, un enfant de remplacement. J'ai cet enfant parce que moi, j'ai pas réussi au conservatoire de musique. Je veux que mon enfant soit le meilleur violoniste, le plus connu, le plus célèbre. Je veux que cet enfant compense le manque d'un enfant décédé. Je veux que cet enfant, puisse nourrir mon couple. C'est grâce à cet enfant que mon couple vit. L'enfant ne s'appartient pas lui-même.
Mais ça fait pas pour autant des tueurs.
Non, mais ça fait des êtres qui ont une frustration et qui vont à un moment ou un autre exprimer leur frustration. Soit sur eux-mêmes, plus le désir de vivre du tout, hein, ça peut être le désir de ne plus exister. Soit des jaloux ou des envieux perpétuels qui désirent toujours ce que les autres possèdent. Voilà, ça, on est dans une société où on regarde la voiture de l'autre, la maison de l'autre, La femme de l'autre, on convoite. Enfin, cette convoitise, elle est parce qu'il n'y a pas ce sentiment d'existence qui est donné par cette liberté d'exprimer son désir devant Dieu.
On a l'impression que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est ça ?
C'est ça, l'herbe est plus verte parce que justement, on n'est pas dans la plénitude du sentiment d'exister. Et on jalouse celui qui peut exister.
Jean-Pierre Lachise, merci pour ce moment de partage à ce micro. C'était donc un air de famille. On
merci.
Se retrouvera bientôt pour une prochaine chronique.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et avec toute l'équipe. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est Pierre Péchou qui nous rejoint dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion dans sa chronique « Vers d'autres cieux ». Pierre Péchou, bonjour.
Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour.
Merci de nous retrouver une nouvelle fois au micro de Vers d'autres cieux. une chronique que vous nous proposez régulièrement sur cette antenne. Vous êtes pasteur, conférencier, chroniqueur radio bien évidemment, et vous nous invitez régulièrement à partager une réflexion que vous sélectionnez dans la Bible. Aujourd'hui, vous revenez sur un texte que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, versets 15 à 24. Donc nous sommes dans le contexte de l'arrestation de Jésus-Christ. Le gouverneur de l'époque, Pilate, se trouve devant la foule et lui propose de relâcher pour la fête de Pâques, comme ça se faisait régulièrement, un prisonnier. Et là, la foule a le choix entre Jésus-Christ et Barabbas. Et alors la foule choisit Barabbas, et de là, on retrouve la fameuse scène très connue par tout le monde, où le gouverneur Pilate dit « je m'en lave les mains », ce qui est une forme de reconnaissance de l'innocence de Jésus. Qu'est-ce qui vous interpelle, vous, Pierre Péchou, dans ce passage, dans ce contexte, dans ce texte ?
Oscar, vous m'avez remercié d'être régulièrement à ce micro, et souvent dans nos partages, nous avons abordé... des rencontres entre Jésus et des personnes de tout horizon. Et heureusement, la plupart du temps, ces rencontres se terminaient par une acceptation par la personne de Jésus-Christ de ce qu'il était, hein, de Dieu. J'aime bien l'expression « l'irruption de Dieu dans ma vie », un Jésus guérisseur, un Jésus qui délivre. Hélas, parfois, et comme aujourd'hui, c'est l'histoire d'une non-rencontre en fait, mais elle va aussi nous interpeller sur notre responsabilité, justement, face à Jésus.
Non-rencontre entre qui ? Entre Jésus et Barabbas ?
Merci de le préciser, entre Jésus et Pilate. C'est-à-dire que quand on lit ce texte, qu'on va pas lire, il est un peu long, mais dans le chapitre 27 de Matthieu, on voit par différentes expressions que Pilate est bien au courant un peu des manigances qui se trament pour que Jésus soit crucifié. Ce Jésus lui a été amené par le tribunal juif, qu'on appelle le Sanhédrin. Mais les pouvoirs de ce tribunal juif étaient très limités. Donc, quand les Juifs viennent apporter Jésus à Pilate, ils lui disent « voilà, nous on l'a considéré comme coupable, mais c'est toi qui dois décider ». Et le texte nous dira que Pilate savait que c'était par envie que les Juifs l'avaient livré. Donc, il est bien au courant de l'innocence, en fait, de Jésus. Je pense qu'il a lui aussi sa police, peut-être sa police secrète, et qu'il était quand même au courant de ce qui se tramait en Judée, puisqu'il en était le gouverneur. Et puis, un peu plus loin, le texte nous dit que Pilate demande aux Juifs « mais quel mal a-t-il fait ? » On ne peut pas lui répondre. Les Juifs sont juste là à dire « crucifie-le, crucifie-le ». Bien sûr, Pilate est prêt à relâcher Jésus. Vous avez rappelé la tradition de relâcher un prisonnier. Et ce n'est pas lui, mais bien la foule qui réclame la mort de Jésus. Dans ce sens-là, Pilate finira par dire « quel mal a-t-il donc fait ? Moi, je m'en lave les mains ». En fait, il se lave les mains devant la foule et là, il va dire « je suis innocent du sang de cet homme, c'est votre affaire ».
Donc il fait bien, là, Pilate, de remettre la foule en face de sa responsabilité.
Alors je pense que la foule gardera sa responsabilité, ça oui. Mais est-ce que ça dédouane complètement Pilate du choix qu'il a fait ? C'est-à-dire que même si le tribunal juif s'est déjà réuni, Pilate est celui qui a toute autorité pour condamner ou pour libérer cet homme. On est quand même encore dans un contexte de justice. Et ce qui m'intéresse ici, quand je parlais d'une non-rencontre, c'est que Pilate, qui a la possibilité de choisir Jésus pour ce qu'il est, en sachant qu'il est innocent, va complètement se désintéresser de l'histoire. Et je pense qu'il avait, il avait la possibilité de choisir le côté de la justice, parce qu'on est quand même dans une forme de tribunal toujours, qu'il a préféré la paix sociale à un engagement personnel. C'est qu'il est bien conscient que refuser la demande de la foule, c'est se risquer à des manifestations populaires, peut-être à une espèce de soulèvement. Et lui, en bon gouverneur, ce qu'il a envie, c'est qu'il y ait une paix sociale. Mais il le fait au détriment de la justice, parce qu'il sait cet homme innocent. Ça peut être une interpellation, parfois dans des contextes de vie qui sont les nôtres, de devoir à un moment choisir Jésus-Christ, se positionner par rapport à lui, parce qu'on le reconnaît comme innocent, comme un homme qui n'a jamais fait de mal. Mais, eh bien, on va avoir peut-être peur de la foule, et la foule peut symboliser peut-être la communauté dans laquelle je vis, la société, la famille. C'est parfois difficile, mais parfois aussi, il faut oser peut-être choisir Jésus, parce qu'on le sait innocent, on le sait homme de bien, et on sait que les revendications de la foule ou de la société ne sont pas valides, et que ce puisse être au moins une interpellation pour chacun d'entre nous, un encouragement à choisir Jésus.
au nom de l'amour.
Est-ce un nouveau film ?
Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC.
IEBC ?
Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org.
Notre émission est maintenant terminée. Vous étiez à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'était La Voix de l'Espérance. Je vous donne rendez-vous dès demain. Je vous souhaite une très bonne continuation à tous. Que Dieu vous bénisse. À demain. We'll be right back.